Musicopolis. Monteverdi, Mantoue, 1607. Une année très importante pour Monteverdi, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Une année particulièrement difficile aussi, mais qui le fait entrer dans l'histoire comme l'auteur du premier grand opéra. L'Orfeo, premier grand opéra de l'histoire de la musique, 1607. C'est l'histoire de cette création que je vais vous raconter cette semaine. Une histoire avec bien des facettes, des ramifications, des angles d'approche. Je ne les explorerai pas tous, mais je vais essayer de tirer quelques fils pour vous tisser un tableau qui vous permette de vous faire une petite idée du contexte. Et pour commencer, le décor. Nous sommes à Mantoue, un petit état du nord de l'Italie dirigé depuis le XIVe siècle par la famille Gonzague. En 1607, le duc est Vincenzo Ier, 45 ans, au pouvoir depuis déjà 20 ans. C'est un homme fantasque et imprévisible, mais aussi un mécène avisé qui fait venir à sa cour des peintres, des architectes et bien sûr des musiciens. Vincenzo Gonzague, duc de Mantoue, est marié avec Éléonore d'Autriche, avec qui il a 5 enfants. En 1607, les deux premiers-nés, Francesco et Ferdinando, ont 20 ans et 19 ans. Ils s'intéressent tous les deux aux arts, comme leur père. Comme il est de rigueur, l'aîné Francesco est destiné à régner, tandis que le puis-né Ferdinando sera ecclésiastique. Avant de devenir cardinal, un peu plus tard dans l'année, à 20 ans, Ferdinando fait des études à l'université de Pise, en Toscane. Les deux frères sont très proches et ils s'envoient des lettres régulières. Leur correspondance de janvier et février 1607 nous permet de suivre les préparatifs de la création d'Orfeo, prévue pour la fin février. Le 5 janvier 1607, Francesco Gonzague, fils aîné du duc Vincenzo de Mantoue, âgé de 20 ans, écrit à son frère Ferdinando. « J'ai décidé de faire représenter une fable en musique pendant la période de carnaval. » Voilà qui nous apprend que c'est Francesco Gonzague qui est à l'origine de la commande de l'Orfeo. Il a demandé un livret à Alessandro Striggio, fonctionnaire de la cour ducale et membre de l'Académie des Invaghiti. Cette académie est l'une des nombreuses sociétés savantes qui fleurissent en Italie à cette époque. On en trouve dans toutes les villes. Ce sont des lieux de discussion entre érudits, lettrés, philosophes, amateurs de musique, sur des sujets de haute culture. Le prince Francesco est lui-même à la tête des Invaghiti. Pour la musique de la fable, naturellement, c'est Monteverdi, maître de chapelle du duc, qui va s'en charger. Il s'est déjà fait connaître par un certain nombre de publications, la dernière en date étant son 5e livre de madrigaux. Faire représenter un opéra comme Orfeo implique de disposer de solistes. Ce type de chanteur n'est pas encore si fréquent en 1607, puisque jusqu'ici la polyphonie dominait, un genre dans lequel chacun tient sa partie au sein d'un ensemble vocal. Autre particularité dans l'Orfeo de Monteverdi, non seulement plusieurs rôles sont solistes, mais la plupart sont écrits pour des voix aiguës, en dehors de deux ténors et d'une basse. Voici qui explique la demande du prince Francesco à son frère. Je cite Francesco. « Puisque nous n'avons ici à Mantoue que peu de sopranos et de médiocre qualité, je serai reconnaissant à votre excellence de me faire savoir si les castrats que j'ai entendus avec le plus grand plaisir lors de mon séjour en Toscane et qui sont au service du grand-duc se trouvent toujours auprès de vous. Il me plairait de vous en emprunter un, le meilleur aux yeux de votre excellence, que le grand-duc ne refusera pas de me prêter si vous intercédez. » Quelques jours plus tard, avant même d'avoir reçu l'accord des Toscans, Francesco écrit à nouveau. « Afin qu'on ne perde pas de temps, je vous envoie la partie destinée à ce castrat pour qu'il commence à l'étudier et à l'apprendre par cœur, au cas où le grand-duc m'accorderait cette faveur. Il pourrait se mettre en route au début du mois prochain. » Réponse de Ferdinando Gonzague à son frère Francesco le 14 janvier 1607. « Conformément à la requête de votre Altesse, j'ai trouvé un castrat qui ne compte cependant pas parmi ceux que votre Altesse a entendus. Mais il a excellemment chanté dans deux ou trois fables en musique. C'est un élève de Giulio Caccini, le Romain, et il reçoit des appointements du grand-duc. »
Se ti morta sale, prendi questo mio strale apri il petto e vi trai scritto in core.
La pratique de faire chanter des castrats en Italie est encore assez récente à l'époque de l'Orfeo. Les premiers castrats sont sans doute venus d'Espagne au milieu du XVIe siècle. C'est en 1589 qu'ils ont été autorisés officiellement, par le pape, à chanter dans le chœur de Saint-Pierre de Rome. Jusque-là, il était interdit de faire entrer des hommes castrés dans l'église. Mais chanter le règne de Dieu est certainement un cas de force majeure. Et puisque les femmes ne peuvent pas se faire entendre à l'église et qu'il faut des voix aiguës pour se rapprocher du ciel, le recrutement des castrats va se répandre. On entend ici le dernier castrat, Alessandro Moreschi, enregistré au Vatican en 1905. Il est probable que la technique de gravure de l'époque déforme un peu la voix. Quoi qu'il en soit, la tessiture est bien celle d'un soprano. Ces chanteurs étaient bien instruits, ils commençaient leur formation en étant enfants et ils avaient souvent une excellente technique. Très vite, leur recrutement est sorti du cadre religieux. Il est tout à fait logique d'en trouver dans la distribution demandée par Monteverdi. Par exemple, pour le rôle de la Speranza, l'espérance, puisque les castrats tenaient des rôles aussi bien masculins que féminins.
Thank you.
Mantoue, où vont avoir lieu les premières représentations de l'Orfeo de Monteverdi, se trouve dans la plaine du Pô. C'est à un peu plus de 200 km de Pise, ville de Toscane, où séjourne Ferdinando, l'un des fils du duc de Gonzague, qui sert d'intermédiaire pour recruter un castrat. Pour joindre les deux villes, on doit traverser la chaîne des Apennins. Il est probable qu'il faut au moins 4 ou 5 jours à cheval, peut-être plus, pour faire le trajet. Le 2 février 1607, Francesco Gonzague rappelle à son frère l'importance de la venue du chanteur. « Lorsque votre Excellence recevra cette lettre, le castrat que j'attends sera déjà arrivé à Mantoue ou sera pour le moins en route. Sans lui, il ne serait aucunement imaginable de pouvoir faire représenter la fable. » Cette phrase nous indique que malgré la qualité des chanteurs de la chapelle ducale de Mantoue, il n'y en a apparemment pas un seul, homme ou femme, en mesure de tenir les rôles qui seront chantés par le castrat prêté par le grand-duc. Le 5 février 1607, Ferdinando Gonzague écrit de Pise à son frère. « Cette lettre vous est remise par Giovanni Gualberto, le jeune castrat que je prête à votre Altesse Sérénissime pour la représentation de votre fable en musique. Lui-même vous dira les difficultés qu'il éprouve à apprendre sa partie, dont il connaît à présent par cœur le prologue, mais pas le reste puisqu'il comporte trop de notes. » Cette phrase nous apprend que la musique de Monteverdi est difficile. Giovanni Gualberto est un chanteur aguerri, une sorte de star qui a été remarqué et recruté pour son talent, et pourtant, il trouve que sa partie comporte trop de notes. Le voyage est sans doute bien long, puisque le 9 février, le chanteur n'est toujours pas arrivé. À Mantoue, Francesco s'impatiente. En vérité, il serait grand temps qu'il fût là, puisque non seulement il chantera la partie que je lui ai envoyée, mais devra aussi apprendre celle de Proserpine, en raison de l'indisponibilité du chanteur prévu. Jour après jour, je l'attends avec une impatience d'autant plus grande que sans lui, la fable ne peut être représentée. « Le 15 février 1607, enfin, le chanteur attendu arrive à Mantoue, où il doit participer à la représentation de l'Orfeo. Francesco Gonzague est soulagé, mais il s'inquiète du peu de temps qui reste avant la représentation. Le lendemain, il écrit « Le castrat est arrivé hier. Il n'a appris que le prologue et il pense qu'il n'aura pas le temps d'apprendre le reste pour carnaval, ce qui m'obligerait à retarder la représentation de la fable jusqu'à la période de Pâques. » Cependant, ce matin, il a commencé à apprendre non seulement les notes, mais aussi les paroles. S'il avait appris toute sa partie, même si elle comporte trop de notes, comme l'a dit Votre Excellence, il saurait au moins la mélodie. On aurait pu alors accommoder la musique à ses besoins, sans perdre tout le temps qu'il lui faut encore pour apprendre par cœur. On sent que Francesco n'est pas très content du travail du chanteur. Celui-ci a peut-être fait sa star en trouvant la partie trop difficile. Néanmoins, à présent, il s'y est mis sérieusement. Et on peut imaginer que Monteverdi, lui aussi chanteur, le fait travailler de très près et lui donne toutes les indications nécessaires. Il reste en fait exactement 8 jours au chanteur pour apprendre sa partie et trouver sa place dans la mise en scène d'Orfeo.
Thank you.
prologue de l'Orfeo de Claudio Monteverdi avec Maria Cristina Kier dans le rôle de la Musica, l'ensemble Elima dirigé par Gabriel Garrido. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernot pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Béatrice Trichet pour la réalisation.